Merci beaucoup. Alors on en parle même beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis un peu excédé d'entendre parler que de ça. Je parle évidemment du mariage pour tous. Je parle évidemment de l'homosexualité, de la procréation médicale assistée. Tout cela, me semble-t-il, ne sont que des éléments supplémentaires qui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, participent à une certaine évolution, même si elle ne va pas dans le bon sens, une évolution de notre société. Ce qui est certain, c'est que les temps changent et que les temps peuvent parfois nous dérouter. Alors, il me semble que pour ma part, le message biblique est clair. Nous n'allons pas vers une progression en matière d'éthique qui soit bénéfique. Je rappelle ici une parole très forte de Jésus qui m'a souvent interpellé. Quand je reviendrai sur terre, est-ce que je retrouverai la foi ? Alors on a beau se réjouir de savoir qu'il y a une église évangélique qui naît tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois. La question, elle est là. Et je pense qu'en la matière, on ne peut pas remettre en question les paroles de Jésus. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi ? Alors, je suis désolé pour ce peut-être que je vais décevoir, mais je ne vais pas ce matin faire un message sur l'homosexualité. Pourquoi ? Parce que il me semble que le message biblique est suffisamment explicite à ce sujet. Vous prenez une concordance et vous lirez que l'homosexualité est un péché, tout comme l'adultère est un péché, tout comme l'idolâtrie est un péché, tout comme le mensonge, tout comme la convoitise. Et je rappelle ici, à nous qui sommes évangéliques, donc pas catholiques, que pour nous, il n'y a pas de péché véniel, donc de petits péchés, et de péché mortel. Aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Alors, nous aurions, il me semble, tort de stigmatiser et de nous focaliser sur ce péché, parce que, en préparant cette prédication, ce message, cette étude, je me suis aperçu que l'homosexualité apparaît bien moins de fois que d'autres péchés dans la Bible. Et en ces temps où les médias se font un plaisir, parce qu'on ne peut pas dire autrement, se font un plaisir de nous matraquer avec cette question, en ces temps où le monde évangélique est en émoi à cause de cette direction que prend le gouvernement. Je rappelle ici que la loi a été votée, donc on peut parler de direction que prend le gouvernement. Il me semble tout à fait à propos, et c'est pour cette raison que le Conseil, dans sa grande sagesse, sous la direction de sa haute présidente, m'a demandé d'aborder ce sujet. Et je crois qu'on a c'est tout à fait à propos de réfléchir sur la question. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est bien celle-ci. Comment réagir face à l'homosexualité ? Avec ce qui se passe de nos jours, comment adopter un juste comportement ? Ne croyons pas, frères et sœurs, ne croyons pas que parce que nous sommes de bons évangéliques, de bons chrétiens, c'est une question à laquelle nous ne serons pas directement confrontés. Il me semble, très honnêtement, que si je demandais parmi nous qui a eu des pensées de ce genre, il me semble que nous serions vraiment surpris. Nous sommes tous, je dis bien tous, gangrénés par le péché. Et ce n'est pas que les autres, entre guillemets, qui sont confrontés à l'homosexualité, même dans l'Église. Et la Bible ne fait pas de distinction, en tout cas une distinction très nette, entre ceux qui ont une inclination pour l'homosexualité et ceux qui la pratiquent. Je définirais donc l'homosexualité comme le fait, pour une personne, d'avoir une préférence marquée pour les relations sexuelles avec une personne de son propre sexe. Certaines de ces personnes peuvent éprouver des sentiments qui ne se traduisent jamais dans les faits par un comportement homosexuel. D'autres, en revanche, pratiquent l'homosexualité. Il est impossible de connaître exactement leur importance numérique. Il y a des adolescents pour qui c'est quelquefois une étape dans la découverte de leur propre sexualité, et je parle en connaissance de cause, puisque moi-même, avec Joël, nous avons fait la direction de bien des camps avec la Ligue pour la lecture de la Bible, avec Jeunesse Ardente et d'autres mouvements, où nous nous sommes rendus compte, avec des animateurs et des animatrices, que c'était un moyen pour les ados de découvrir leur sexualité. Il y a également des adultes qui commencent des pratiques homosexuelles en temps de guerre. J'avais lu il y a quelques années un livre sur la guerre de 14-18 où l'auteur expliquait que, par manque de femmes, l'homosexualité se pratiquait dans les tranchées, par exemple, pendant la guerre de 14-18. Certaines personnes découvrent l'homosexualité en prison, et là encore, je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été moi-même aumônier des prisons, et j'ai discuté avec bon nombre de détenus qui me disaient que c'était un moyen pour eux d'assouvir leur sexualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sous l'effet d'une très forte tension émotive que certaines personnes s'engagent pour la première fois dans la pratique homosexuelle. Pour d'autres, cela peut arriver à leur propre étonnement sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet d'une dépression. Les gens sous l'effet de l'alcool et sous l'effet d'une dépression se comportent autrement, de manière différente, et vivent des situations qui sont différentes. Et je dirais que l'aspect, la manière de s'habiller, ne peuvent en aucun cas être des critères pour décider si une personne est homosexuelle ou non. Alors, ça va vous étonner, mais j'ai des photos et je peux le prouver. Quand j'avais 18 ans, j'avais les cheveux jusqu'ici, et quand je me baladais dans Paris avec mes cheveux longs jusqu'ici, très souvent, sur mon passage, j'entendais des gens dire « Ah, regarde, voilà un PD hein ! » Alors que je n'étais pas du tout, je veux dire. C'était la mode des cheveux longs, et j'avais les cheveux longs. Donc, j'insiste là-dessus, l'aspect ou la manière de s'habiller ne prouve en aucun cas que la personne qui est face à vous est homosexuelle. Alors, des études, je le dis très succinctement parce que ça m'a interpellé aussi cela, des études ont été faites sur l'homosexualité féminine. Alors, c'est intéressant parce qu'elles sont moins nombreuses. D'une part, les femmes hésitent à évoquer ces problèmes dans les cliniques psychiatriques. D'autre part, la société est beaucoup plus tolérante, entre guillemets, envers le mariage homosexuel, enfin l'homosexualité féminine. On ne trouve pas, à ma connaissance, dans l'homosexualité féminine autant de violence. Et les femmes qui ont une inclinaison homosexuelle ont moins de dépression et sont beaucoup moins nerveuses que les hommes, et le vivent beaucoup mieux que les hommes. Les femmes semblent être prête à accepter beaucoup plus facilement une amitié qui ne soit pas une amitié érotique. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe et pour savoir où on en est arrivé, je crois qu'il est indispensable de faire un bond en arrière et voir un peu ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Et dans la Grèce antique, on accordait à l'homosexualité une très très grande valeur. Et dans la Grèce antique, on considérait l'homosexualité comme une forme supérieure de l'amour. Alors évidemment, nous n'en connaissons pas l'étendue, nous ne savons pas à quel point elle était acceptée par la société en général, mais ce qui est sûr, c'est que nous savons que chez les Grecs, la structure familiale était très très déprécie. Je donne ici une citation de Démosthène qui dit ceci, qui écrit ceci. Nous entretenons des prostituées pour notre plaisir, des maîtresses pour les besoins de nos corps et des épouses pour être des mères, les mères de nos enfants et les gardiennes de nos foyers. Donc on voit très bien que dans la Grèce antique, les relations avant et en dehors du mariage, c'était quelque chose de très banal, c'était quelque chose de très courant. Pour Platon, par exemple, qui était un homme cultivé, l'amour signifiait pour lui, Platon, aimer un garçon. Et l'amour ordinaire pour une femme, c'était quelque chose pour Platon qui était très bas et qui n'était pas honorable du tout. Et quand on regarde, par exemple, dans la Rome antique, qui a été, je le rappelle quand même, parce que c'est intéressant, profondément influencée par la Grèce, sur les 15, écoutez bien, parce que c'est important, sur les 15 premiers empereurs romains, 14 étaient des homosexuels et pratiquaient l'homosexualité. Et ils pratiquaient aussi, évidemment, l'hétérosexualité. Chez les Romains, on a vu des attitudes semblables à celles des Grecs concernant l'homosexualité. Le mariage était amoindri. Je rappelle ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'impératrice Messaline, qui était l'épouse de Claude, l'empereur Claude, Messaline se comportait comme une vulgaire prostituée pendant que son mari dormait. Et elle était très fière, pendant que son mari dormait, de dire que cette nuit, elle avait couché avec des dizaines d'hommes. Jérôme nous raconte, ou nous rapporte l'histoire d'une femme mariée à son 23e mari, étant elle-même sa 21e femme. Et Jérôme rappelle qu'il y avait là une situation d'homosexualité dans la promiscuité et une hétérosexualité dans la promiscuité. La vie familiale était foulée aux pieds. Alors, ce qui est intéressant, et on va essayer de comprendre pourquoi, c'est que l'attitude des Juifs était tout autre. Les Juifs étaient fortement opposés à l'homosexualité. Dans la pratique, chez les Juifs, il faut le rappeler, était condamné à mort. Un Juif pris en flagrant délit d'homosexualité était mis à mort. Tout autant que les relations avec une bête. Les Juifs accordaient à l'hétérosexualité une importance très grande à cause de sa fonction dans la famille. La stabilité, la continuation dans la famille, c'était un des principes fondamentaux du judaïsme. Et il est important de se rendre compte qu'à l'époque où a été rédigé le Nouveau Testament, l'enseignement qui était donné concernant l'homosexualité s'inscrivait dans le contexte que nous venons d'évoquer. Dans les sociétés orientales, à certaines époques, l'homosexualité était acceptée. À d'autres, elle était sérieusement condamnée. La société de nos jours, en particulier dans les pays scandinaves, que ça nous choque ou pas, le fait est là, dans les pays luthériens, donc dans les pays réformés, de tendance protestante, les Pays-Bas, la Suède et d'autres pays, plus le Japon, est beaucoup plus tolérante envers l'homosexualité. Par contre, si vous allez en Amérique latine ou en Amérique, en Russie, on rencontre une forte désapprobation. Il semble que l'homosexualité soit d'autant plus répandue qu'on la valorise ou qu'on la dévalorise. La fidélité dans les liens du mariage sont, qu'on le veuille ou non, bafoués. Alors, c'est important de comprendre ce que l'on réclame aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on réclame aujourd'hui ? Alors, évidemment, j'ai revu des vidéos, j'ai regardé la presse, je me suis documenté pour cette étude de ce matin, parce qu'autant mieux vous dire que l'homosexualité, c'est pas mon fort, on m'a demandé de le faire, il y en a qui sont qualifiés pour ça, moi c'est pas mon truc, donc il fallait quand même que je me documente. Je me suis arrêté sur le témoignage d'un gay, d'un homosexuel, à un journaliste d'une revue, que je ne citerai pas, parce que je ne veux pas faire de pub, qui dit ceci. « Je suis fier d'être une variante d'un comportement normal. Je suis fier d'être une variante d'un comportement normal. » Et dans ce reportage, cet homme, cet homosexuel, affirmait que son homosexualité était préférable à un comportement hétérosexuel. Un auteur a dit que l'hétérosexualité présentait de grands inconvénients et que l'hétérosexualité encourageait l'homosexualité. Par exemple, ce même auteur dit que l'homosexualité n'est pas liée à une seule personne mais à plusieurs et qu'ainsi il est capable de pratiquer la relation sexuelle pour elle-même. Et pour avoir une relation sexuelle, cet homme disait « Je ne suis pas obligé de faire semblant ou de dire « Je t'aime ». Je choisis et je suis libre de choisir l'orientation que je veux donner à ma vie. » Et il me semble que derrière toutes ces affirmations, derrière toutes ces recherches, il y a incontestablement une pensée. Et cette pensée, c'est la satisfaction, le plaisir sexuel m'appartient, c'est ma prérogative, j'ai le droit au plaisir. Et c'est là, finalement, que se trouve l'une des grandes difficultés pour le chrétien. Je voudrais, ce matin, remettre en question cette idée que chacun a le droit à la satisfaction sexuelle. Et l'idée que l'hétérosexualité et l'homosexualité peuvent être équivalents. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, l'attitude chrétienne envers l'homosexualité n'a jamais été bonne. Parce que depuis des décennies, nous, chrétiens, nous avons considéré l'homosexualité comme le péché de Sodome, comme la cause de la destruction de Sodome, d'où vient la sodomie. Hein. C'était donc pour nous, chrétiens, le péché le plus horrible qui soit. Et ceci, mélangé Alors là, il faudrait plus de temps, et malheureusement, c'est pas possible. Il faudrait ici revoir les pères de l'Église, mais mélanger au faux ascétisme des pères de l'Église qui ont encouragé par l'attitude de l'Église médiévale et qui considéraient le célibat comme étant plus élevé que le mariage. Le célibat était la forme la plus élevée de la sexualité. Les pères de l'Église ont mis sur pied un ensemble de répressions très, 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 très fortes. Mais je n'ai pas le temps de le toucher ici. Il me semble que même les relations les meilleures, les plus tendres que nous pouvons avoir sont affectées par la chute. Et je dirais pour ma part qu'il ne faudrait pas, en tant que chrétien, être plus sévère envers l'homosexualité qu'envers n'importe quel autre péché. Parce que la chute est là. Et parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, dominés par le péché. Et nous partageons tous et toutes quelque chose de cette chute où se trouve le monde. Que notre inclinaison soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Et il n'y a aucune raison d'idéaliser l'homosexualité ou de faire l'équation entre l'homosexualité et les relations hétérosexuelles. Ni d'accepter des relations homosexuelles entre chrétiens, car elle existe. Vous savez aussi bien que moi qu'il existe à Paris une église protestante évangélique qui est réservée aux homosexuels et aux lesbiennes. L'église du Christ libérateur, elle s'appelle. L'égalité, me semble-t-il, n'existe pas dans ce monde. Et le droit pour chacun d'avoir des relations sexuelles n'existe pas. Il n'existe pas plus que le droit de procréer dans l'optique chrétienne. Parce que toutes ces choses sont un don de Dieu. Et le mariage, alors là je serai beaucoup plus clair, le mariage ne peut pas être pour tous. Le mariage ne peut pas être pour tous, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des célibataires, il y aura malheureusement parfois des estropiés, des handicapés, et ils ne pourront pas connaître le mariage. Et même ceux et celles qui sont mariés peuvent très bien ne pas avoir la descendance qu'ils avaient raisonnablement espérée. La Bible nous invite à nous abstenir de relations sexuelles en dehors du mariage. Et la question, c'est comment donc allons-nous régler ce problème d'une manière pratique dans l'Église ? Alors, en tant que responsable d'Église, je devrais dire que nous devons faire comprendre aux personnes homosexuelles que Christ est mort pour elles, comme pour les autres personnes. Il y a cependant des problèmes spécifiques. Dans une période de trouble, elles peuvent ne pas retrouver les structures de la vie familiale et les traditions. Il se peut qu'elles connaissent la solitude, le désespoir, mais cette solitude n'est pas nécessairement plus grande que celle des autres personnes qui aimeraient beaucoup se marier et qui, pour une raison ou pour une autre, ne le peuvent pas. Et cela s'ajoute à la crainte de l'ostracisme, la peur d'être découverte. Beaucoup de ceux qui ont des problèmes homosexuels n'osent pas se confier à d'autres personnes parce qu'ils ont le sentiment que cet aspect de leur personnalité sera traité d'une façon sévère, qu'elles seront trompées ou qu'on se moquera d'eux. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions jamais permettre que la personnalité d'une personne soit diffamée. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si je hais du verbe haïr l'homosexualité, il m'appartient d'aimer l'homosexuel. Parce que c'est une créature que Dieu aime. Et de la même manière, je dois aussi l'aimer. Parce qu'une personne qui a des tendances homosexuelles, qu'on le veuille ou non, elle ne peut pas s'en empêcher. Et elle ne doit pas se dévaluer en tant que personne. Et nous ne devrions pas faire quelque chose qui puisse la dévaluer en tant que personne. C'est un individu particulier devant Dieu. Mais tout comme d'autres personnes qui sont seules, elle ne peut pas vivre l'intensité d'une relation un à un comme celle que donne le mariage. On va donc essayer de l'encourager d'accumuler de nombreuses relations sociales, relations amicales. D'une façon plus large, on peut encourager l'homosexuel à rechercher activement la communion avec d'autres. Et il me semble que, en tout cas, une des choses importantes pour nous, c'est de ne pas les rejeter. Parce que je rappelle ici que l'hospitalité, c'est un don chrétien. Et nous devons leur donner le sentiment d'appartenir à quelque chose. C'est très, très important. L'enseignement biblique est intéressant. Le chapitre, évidemment, qu'on ne va pas lire parce qu'il est trop long, mais qui nous intéresse ici, il se trouve dans le 19e chapitre de la Genèse. Vous connaissez ce passage, hein ? Vous connaissez ce passage ? C'est Sodome, Gomorre, avec Lot et ses visiteurs, etc. D'accord ? Ce passage, ajouté avec le passage du Lévitique chapitre 18, ont soulevé l'idée que l'homosexualité va entraîner un rejet hors du peuple et que le passage concernant Sodome était un passage clé. Je le disais tout à l'heure, c'est de ce passage que dérive le terme sodomie. Et là, alors, je dois dire très honnêtement qu'on a commis une très grave erreur en tant que chrétien. Parce que, à mesure que l'Église commençait à expliquer ces textes, elle s'est concentrée surtout sur l'homosexualité et a oublié un tout petit peu les aspects de la vie de Sodome. Alors je ne voudrais pas m'attacher seulement à ce texte de Genèse, parce qu'il y en a un qui est super intéressant et qui nous donne la raison pour laquelle Dieu va détruire Sodome. Et ce passage important se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 16, verset 49. C'est la raison de la destruction de Sodome. Et je la lis. « Voici quel a été le crime de Sodome, dit l'Éternel. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi. Et c'est la raison pour laquelle je vais les faire disparaître. » Ou je les ai fait disparaître. Et mes amis, c'était là, et pas autre part, la culpabilité de Sodome. C'était l'orgueil, l'abondance de la nourriture, la prospérité, le refus d'aider le pauvre et d'autres choses abominables. Il est clair que la pratique homosexuelle était considérée comme un péché contre la loi. C'était une perversion de l'acte sexuel qui avait été conçu en vue du mariage et de la famille. Mais il est tout à fait évident dans ce texte d'Ézéchiel que dans le cas de Sodome, l'homosexualité n'était qu'un péché qui figurait en même temps que l'orgueil et le désir de s'enrichir. On retrouve la même importance donnée à ces choses dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et dans ce passage, il est clairement affirmé que l'homosexualité pratiquée au même titre que l'ivrognerie, que la cupidité, l'adultère, l'idolâtrie, etc., est une forme de désobéissance qui mène à l'exclusion du royaume de Dieu. Tout était une perversion de l'ordre donné aux hommes, et pas un seul de ces péchés n'a été mis en épingle comme spécialement horrible. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Et puis, il y a ce fameux texte. Pardonnez-moi si je vais vite, mais normalement, le temps qui m'est imparti est fini. Et le problème, c'est que j'ai encore 8 pages. Alors, je vais terminer, mais le texte qui nous intéresse, c'est aussi Romains 1. Parce que Romains, chapitre 1, verset 26, parle de l'homosexualité comme étant contre nature, contraire à notre anatomie, contraire à notre biologie. Mais dans ce passage, également, prenez le temps de le lire, l'homosexualité n'est pas mentionnée pour elle-même, mais dans un contexte. Et vous n'avez pas le droit, je le rappelle, de prendre un contexte, de lire un texte, de l'arracher du contexte pour vous en servir comme prétexte. D'accord ? Nous devons tous, ensemble, en tant que chrétiens, lire un texte, le respecter et le lire dans son contexte. Et si vous regardez le contexte de Romains 1, vous verrez que le contexte, avec bien évidemment bien d'autres choses, fait partie de la désobéissance contre l'ordre de la création, en même temps qu'un grand nombre d'autres désobéissances. Et parmi tous les autres péchés, elle est citée comme une marque fondamentale de perversion de l'homme. L'homme avait mis la création à l'envers, et ce qu'il faut souligner, c'est que la relation verticale entre Dieu et l'homme a été brisée, et cette rupture amène une rupture dans la relation horizontale avec les hommes. Et l'homosexualité est un symptôme de la chute de l'homme. C'est le symptôme du péché originel, si vous préférez. Et je dirais que le comportement homosexuel est contraire à la volonté de Dieu dans sa création, de même que la douleur est contraire à la volonté de Dieu, de même que la souffrance, de même que les difficultés qu'on éprouve dans nos relations les uns avec les autres, en même temps que le désordre de la personnalité, en même temps que le désordre de notre personnalité. Et moi, je trouve super intéressant cette citation du docteur Paul Tournier. Le docteur Paul Tournier écrit ceci. « Il se peut qu'un homme soit avide et égoïste. Il se peut qu'il soit violent et brutal. Il se peut aussi qu'il soit accapareur, dénudé de scrupules, menteur, têtu, arrogant. Il se peut qu'il soit stupide, morose, que tout instinct noble soit mort en lui. Et cependant, s'il pratique tous ses péchés dans les liens du mariage, certains chrétiens ne penseront pas qu'il est immoral. » Et moi, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je vous invite à lire son bouquin de Paul Tournier, parce qu'il est vraiment intéressant. Et je dirais que ceux ou celles d'entre nous qui effectivement se marient, qui ont des foyers, devraient manifester les qualités d'un mariage chrétien et des relations mûres, donnant aussi bien moins de prises de difficultés qui entraînent l'homosexualité. Je vais terminer, parce qu'il faut que je termine. Alors, soyons pratiques. Aujourd'hui, tu es dans l'église d'Ozoir-la-Ferrière. Tu es rongé par un problème sexuel que tu n'oses dire à personne. Homosexualité, pornographie, liaison secrète, liaison adultère. Et je dis que si tu es prêt à travailler, à combattre, tu peux vivre comme Dieu le veut pour toi, depuis le début dans la pureté. Je ne sais pas si tout le monde peut changer son orientation, mais je sais que Dieu veut que nous vivions tous dans la pureté de nos actes, et que nos actes soient en accord avec sa parole. Et je dis que si c'est ton cas, si tu as péché, tu peux te repentir. Tu peux trouver un pardon total auprès de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ est mort pour toi. Il a porté ce péché sur la croix. Et il n'y a personne ici qui a le droit de te condamner. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin d'être purifiés, d'un péché ou d'un autre. Et Jésus te dit ce matin, je ne te condamne pas non plus. Va en paix, mais ne pêche plus. C'est ce que Jésus te demande de faire, et tu peux le faire. Et si vous pensez, ou s'il y a quelqu'un pour penser ce matin, qu'il n'a pas trop de problèmes dans ce domaine, eh bien je vais lui demander de regarder dans sa poche. Et si tu as amené avec toi, dans ta poche, quelques pierres pour les jeter aux autres, eh bien, je te demande maintenant de les mettre par terre, tes pierres, et de vider tes poches. Amen. Pardonnez-moi, j'étais un peu trop long. C'est pas évident en 20-25 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la première fois qu'on fait un message et qu'on demande des questions après, mais je pense que c'est important. C'est un sujet délicat et on veut que vous ayez l'occasion peut-être de vous exprimer si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, juste répondre à ta question au niveau, parce que j'étais un des premiers à me rendre aux manifs. Donc, juste dire que pour moi, c'était important pour la bonne et simple raison. Je vais l'expliquer très simplement parce qu'on n'a pas trop de temps. En vous racontant une histoire qui est réelle, je crois. Hein. En tout cas, elle pourrait l'être. Qui dit ceci. Quand on est venu arrêter les Juifs, j'ai laissé faire, parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus arrêter les communistes, j'ai laissé faire, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus arrêter les gens qui n'étaient pas d'accord avec les lois qui étaient votées, j'ai laissé faire, parce que moi, je n'étais pas contre. Quand on est venu arrêter tous les opposants et les syndicalistes, j'ai aussi laissé faire, parce que je ne faisais pas partie d'un syndicat. Et puis quand ils sont venus m'arrêter, ben, il n'y avait plus personne pour s'opposer à rien. Donc ils m'ont arrêté. Et je crois que c'est important que même si ça ne change rien, on ait quand même l'occasion de dire notre opinion et de dire qu'on est opposé à ce que cette loi passe. Et c'est ce que nous avons fait. Je précise bien dans le calme. Tu voulais dire quelque chose?
J'avais une question par rapport au mariage et sa définition dans la Bible. Je vois si je me trompe, mais j'ai l'impression que le mariage, c'est un homme et une femme. Alors, est-ce que dans cette définition-là, il y a quelque chose d'insuffisant? Parce que, en fait, ma question, c'est est-ce que le mariage d'un homme avec un homme ou le mariage d'un homme avec une femme, est-ce que c'est la même
Oui, les textes fondamentaux du mariage, il n'est pas parlé de mariage hein, dans la Bible. Le texte dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux feront une seule chair. » Et Jésus, étant interrogé un jour sur le mariage, va appuyer ce texte de l'Ancien Testament en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, il est clair, pour moi, en tout cas dans ma lecture biblique, que le mariage dans la Bible, c'est un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, on ne va pas faire de l'hébreu, parce que ce n'est pas le moment, et puis, etc. Mais le mot femme, c'est le mot féminin, hein. C'est pas le même sexe. Ça répond à ta question ?
Plus ou moins, mais ce serait long, en fait. Parce que, ouais, non, ce serait vraiment trop long.
D'accord. Ben, on mange ensemble, on en discute. Christian ? Oui, oui.
C'est pas de l'homophobie, on l'a manifesté contre le mariage homosexuel.
Voilà.
C'est très important qu'on a manifesté contre un texte contre des personnes, pas contre des personnes qui ont une certaine orientation. Les médias ont beaucoup assisté en faisant passer des manifestants pour des homophobes.
Oui.
Chose que nous sommes absolument.
Je pense que on ne va pas entamer un débat là parce que le temps passe. Allez-y. Alors là, tu me poses la question à moi. Oui.
La loi est là. Est-ce qu'il faut désobéir la loi pour bénir le mariage ?
Alors moi, je serai assez clair à ce sujet. Je crois qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Considérant que le mariage pour tous n'est pas un mariage, moi, je m'opposerai à... En tout cas, je ne bénirai pas un mariage homosexuel. Pour moi, c'est clair. Oui, Christine. Ah, il y en a d'autres. Excusez-moi. Alors c'est vrai que pour le catholique, le mariage est un sacrement. Pour nous, en tant qu'évangéliques, c'est pas un sacrement. Même si ça reste sacré dans le sens le plus profond du terme. Mais c'est pas un sacrement pour nous, évangéliques. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et je pense que, on va pas en discuter maintenant parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais je pense que les homosexuels pouvaient très bien se suffire du pacte. Du pax. Ils avaient le pax, ça suffisait largement. Merci beaucoup.